Le handicap aujourd'hui. Une émission proposée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.
Et de retour dans ce second numéro du handicap aujourd'hui consacré à la thématique sport et handicap. Nous parlions juste avant la pause, eh bien, des contrôles concernant les clubs qui accueillent des sportifs en situation de handicap. Et Annie Ponchel, vous souhaitiez réagir par rapport à cela.
Bon, déjà pour la recherche d'un club, il y a ce qu'on appelle le Handiguide, hein, qu'on trouve sur Internet, qui en principe répertorie toutes les associations ou clubs qui permettent à des personnes handicapées, que ce soit handisport ou sport adapté, de pratiquer. Ensuite, il y a le Comité olympique du Pas-de-Calais, le SDOS, qui a créé un label accueil handicap dans nos deux disciplines, handisport et sport adapté. Ça s'est mis en place cette année, donc ça commence. Il y a certains clubs qui ont demandé, donc il y a des visites de nos techniciens respectifs, handisport et sport adapté, qui vont se déplacer pour voir si le club répond bien au cahier des charges.
Ce sont des visites impromptues ?
Alors, là, je sais qu'il y a un rendez-vous qui est pris prochainement avec un certain club. Maintenant, bon,
bien sûr, je vous n'allez voilà. pas le dire, évidemment.
voilà.
Mais oui. Ce que je vous demandais, c'est que voilà, est-ce que vous preniez les rendez-vous directement avec les clubs ou est-ce que vous veniez comme ça, hop, voilà, bonjour, on est le comité.
Alors là, c'est pas moi qui m'en occupe directement, c'est l'OSDOS qui gère ce label. Mmh. Mais bon, il y a des visites de contrôle quand même qui sont faites. D'autre part, le département a créé un dispositif, ouvrez votre club.
Oui.
Donc,
c'est vrai qu'on en a parlé il y a quelques années ici sur Radio Plus. Oui, allez-y.
Voilà, donc c'est un dispositif pour les clubs ordinaires qui veulent accueillir du public alors handicapé, mais aussi des problèmes des personnes cas sociales, des féminines, enfin qui s'adressent. Mmh. Il y a plusieurs thématiques, hein, dont le handicap. Donc on participe handisport et sport adapté aux commissions. Pour dire si ce club mérite ou mérite pas parce que c'est un financement, oui. Hein, bien évidemment. Donc on participe à ce dispositif également, d'ouvrir votre club.
Alors ouvrir votre club, ça répond à quels critères justement ?
Donc il y a un cahier des charges à remplir également. Oui. Et normalement, à l'issue de ce suivi qui peut être fait sur 3 ans, de ce financement qui peut être fait sur 3 ans, mais tous les ans, il y a une réévaluation du projet mené par le club. On demande à ce que le club crée sa section, soit handisport, soit sport adapté.
Très bien. Merci pour ces précisions. Alors, Christelle Langham, pourquoi, d'après vous, qui êtes sur le terrain, la pratique sportive est-elle importante dans un foyer comme le vôtre ?
L'importance pour les personnes en situation de handicap de pratiquer un sport, ça leur procure des avantages précieux, dont lutter contre la sédentarité, mais aussi l'isolement. Cela leur permet de prendre confiance dans leur estime de soi. Et puis le sport joue un rôle important aussi pour lutter contre l'exclusion et permet l'intégration des personnes au niveau de la population.
Alors, je reviens un petit peu sur l'enquête, hein, sport et handicap. On disait tout à l'heure que certaines structures d'accueil mettaient un petit peu ça sur le second plan. Est-ce que, d'après vous, toutes les structures d'accueil qui traitent notamment du handicap mental ont conscience de cela, de l'importance du sport ?
Oui, parce que chez nous, l'importance du sport, il en fait partie, quoi, dans notre structure. Donc, nous, on propose différentes activités sportives à nos usagers, et donc ils vont à la piscine, ils font du tennis de table, ils vont aussi dans un club de taïso qui est dans notre commune.
Alors le taïso, c'est quoi ?
Donc le taïso, c'est une préparation du corps pour la préparation du judo, on va dire.
D'accord.
Donc ils partent, donc on les dépose directement avec leur professeur, hein, et donc pendant 1 heure, ils préparent leur corps par la suite, de pouvoir faire du judo.
Très très bien. Annie Ponchel, je vous ai vu sourciller.
Oui, parce que moi je connais très bien le foyer de vie de Grenay, hein, puisque je suis une ancienne salariée de l'établissement. Donc je sais que le sport et puis l'institut gestionnaire à l'API de Lens est très partie prenante pour le sport adapté. Donc c'est inscrit dans le projet individuel des résidents, etc. Je dois dire que c'est pas partout pareil. Parce que c'est dû aussi parfois à la volonté institutionnelle ou à un éducateur qui soit plus pratiquant et qui va entraîner l'équipe, etc. Donc il y a quand même des difficultés. Et bon, notre agent de développement au comité, bon, contacte sans inlassablement, disons, toutes nos structures, toutes les structures du département, et essaye de faire passer le message, mais c'est pas encore gagné, disons.
Mais en tous les cas, pour vous, Christelle, c'est que du bonus.
Oui, pour nous, c'est que du bonus, et nos résidents, bah, nous le témoignent fortement, parce que si on rate un jour de piscine ou un jour de tennis de table, ben, ils savent nous dire, ah non, aujourd'hui, on aimerait vraiment y aller, mais il y a des fois, bon, les possibilités ne le permettent pas, ou éventuellement un problème de dernière minute, ou quoi. Mais c'est vrai que non, on répond à leurs demandes et on leur propose le maximum de sport sur l'extérieur.
Mathias, justement, quand vous loupez une séance d'athlétisme, ça se passe comment pour vous?
Alors, on va vous rapprocher du micro, voilà.
J'avais dit de le dire. Toutefois, ça m'a réjoui un petit peu d'apprendre que je n'ai pas eu la possibilité d'y aller comme ça pour la semaine prochaine ou la semaine d'après. Ça m'aide mieux mentalement à y être prêt. Comme ça, j'y vais au moment qui se présente le plus.
Oui, ça vous rend impatient et vous êtes encore plus content quand
vous y retournez. Me motive doublement.
Très bien. Alors, Julien, je crois que c'est à toi.
Oui, est-ce que, tout d'abord, parce qu'on l'a bien compris, effectivement, beaucoup de résidents pratiquent chez vous un sport. Combien il y a de résidents qui pratiquent un sport et combien de résidents au total dans votre foyer?
Donc, dans notre foyer, on a 65 résidents. Mm-hmm. Donc, le nombre de personnes qui pratiquent un sport, écoutez, là, comme ça, donnez le nombre.
À peu près. Hein.
65. Est-ce qu'on est plus près des 65 ou est-ce qu'on est plus près des 20-25, on va dire? Qui t'a donné une fourchette?
Oh, je dirais plus haut. Hein. On va pas dire les 65 parce que toute personne veut pas forcément pratiquer un sport aussi. Hein. Donc après, on a d'autres activités qui sont pas forcément, on n'appelle pas ça spécialement du sport, mais ça aide aussi au maintien de l'autonomie. Donc ça peut être par des petits exercices d'étirement, des choses comme ça. Et ça, on le fait en structure et ce sont nous, les éducateurs, qu'on propose des activités autour de ça. Donc pour les personnes qui veulent pas pratiquer de grands sports, donc il y a ces activités-là. Et pour les autres personnes donc qui pratiquent un sport. Donc moi, je dirais sur les 65, on va dire quand même qu'ils sont une bonne en 35 au moins à pratiquer un sport chez nous.
Un peu plus de la moitié, effectivement. Oui. Alors, on l'a un petit peu évoqué en première partie d'émission, c'est principalement de la pratique en club, aussi parce qu'il est difficile pour vous d'avoir des éducateurs sportifs qui viennent faire pratiquer à domicile, si j'ose dire ainsi.
Alors, nous, on a réussi à trouver un éducateur sportif qui vient tous les lundis soirs. Donc, il est très attendu. Hein. Les usagers vont le chercher même sur le parking de l'établissement. Donc, il est très, très attendu. Et de là, il leur fait découvrir leurs différents sports. Ça peut être de la marche avec bâton. Ça peut être du baseball. Ça peut être des jeux de fléchettes. Enfin, vraiment plein de choses, du rugby, tout ça. Et donc, il vient toutes les semaines chez nous. Et donc, il est très attendu pour pouvoir faire cette activité sportive directement au foyer. Et ensuite, par contre, vous disiez qu'on travaillait qu'avec des clubs, non, pas forcément, parce que comme la natation...
Principalement, en tout cas.
Oui, principalement, oui. Parce que la natation, c'est nous, en tant qu'éducateurs, qu'on encadre la natation trois fois par semaine. On va à la piscine avec nos usagers.
D'accord, donc c'est vous qui encadrez, c'est pas le maître nageur de la piscine?
Non, pas du tout, c'est nous.
D'accord.
Donc ça veut dire aussi, du coup, pour vous, des formations supplémentaires à dominante sportive, si je comprends bien.
Oui, tout à fait.
Voilà, donc multifonction.
Voilà, c'est ça.
On connaît ça ici à Radio Plus. Enfin, je vois pas du tout de quoi vous parlez, mais.
Tout à fait.
Alors, Nicolas Merfil, justement, on revient sur votre parcours parce qu'on n'a pas encore tout expliqué hein, sur vous. Vous êtes originaire de Nouvelle-Calédonie. Vous avez toujours été sportif hein, depuis votre plus jeune âge et vous êtes, il faut bien le dire, un cas particulier. C'est l'excès de sport qui est malheureusement à l'origine de votre handicap actuel. Expliquez-nous ça.
Oui, effectivement, en fait, j'ai les muscles qui ont emprisonné les artères. Donc ça a créé une thrombose bilatérale sur les deux jambes. Et à force d'être opéré et de couper les muscles pour sortir les artères, en fait, ça a sectionné les nerfs, qui fait que j'ai une neuropathie sévère, qui est à la base fonctionnelle, mais qui est en train de se développer un petit peu partout.
Alors, comment s'est passé le laps de temps entre votre handicap et le fait que vous ayez décidé de poursuivre le sport, parce que vous n'avez pas arrêté le sport, au contraire, on en parlera après.
Ah, donc je suis rentré à l'hôpital pour me faire couper les deux jambes, où on devait me couper les deux jambes avec un pronostic vital engagé, à la veille de mon anniversaire, donc c'était le 12 novembre 2013. Et puis donc après plusieurs séjours à l'hôpital, cette opération, etc. Donc il a fallu réadapter un petit peu tout ça. Et puis au bout d'un an à la maison en étant allongé, je dis c'est simple, c'est soit je continue à me laisser dépérir et je finis ma vie comme ça, ou alors j'essaie de me bouger un peu je continue à faire ce que je sais faire, à savoir faire du sport. Et en fait, à force de me remettre au sport, je suis reparti dans la compétition, parce que de toute manière, je conçois le sport, ma vision du sport à moi, et parce que par la performance. Donc je suis reparti en me donnant les moyens, en essayant d'aller petit à petit remobiliser tous les muscles et puis aller gravir les échelles pour pouvoir continuer dans le sport que j'adore, le sport performance.
Alors justement, vous pratiquez aujourd'hui le lancer de disque et de poids et le volley assis en équipe de France. Vous avez même obtenu 2 médailles d'or et 2 médailles d'argent l'an dernier, me semble, concernant lancer de poids et lancer de disque. Hein. Une, alors allez-y,
Alors là, de tête, entre les compétitions nationales et les meetings internationaux, ouais, je dois être... 5-6 médailles. En fait, j'ai matché à chaque fois, à chaque compétition.
Donc, du haut niveau, en tous les cas, déjà, qu'est-ce qui vous a donné l'envie de continuer le sport? Et surtout, en haut niveau, malgré le handicap, parce que bon, c'est pas facile. D'un côté, l'excès de sport vous a amené au handicap, mais du coup, vous allez, en fait, j'ai envie de dire, vous appuyez vraiment sur la plaie, là.
Oui. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, voilà, je suis d'origine néo-calédonienne. Là-bas, les Maoris, les guerriers, etc. C'est un petit peu, j'en ai fait un petit peu mon fond de commerce et j'ai basé un petit peu ma vie là-dessus, hein, sur le sport, à travers l'armée, à travers les pompiers. Et je pense qu'après, voilà, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui fait que on se laisse tomber un petit peu, mais ça va jamais, ça dure jamais. Et puis après, bah voilà, faut lutter. La vie est une lutte permanente, que ce soit en tant qu'handicapé ou en tant que valide. Nous, on le subit un petit peu plus, mais derrière ça, ben voilà, faut pas lâcher. Moi, j'ai mon fils qui a 18 ans et la fille de ma copine qui a 11 ans. Je me dois encore de pouvoir leur montrer que la vie, elle s'arrête pas à ça. Et je pense que à travers les difficultés, quand je pense à eux et quand j'essaye de lutter, ça m'apporte aussi une autre joie. Et puis si on arrive maintenant à le transmettre, quoi de plus beau que le transmettre, que de pouvoir le rendre aussi, avec le défi pour Noémie, les 50 km dimanche dernier. Je pense que tout ça, voilà, c'est dans mon caractère, c'est dans les gènes et c'est ce qui me fait vivre.
Et on va revenir sur ce défi tout à l'heure dans la dernière partie. Julien,
est-ce que vous avez dû réduire en termes de nombre d'heures, en termes d'intensité des entraînements, par exemple, votre pratique sportive par rapport à comment vous la pratiquiez avant, justement, avant votre handicap ?
Oui, bien sûr, parce que maintenant, avant, quand je jouais au rugby, voilà, on avait des entraînements journaliers, on avait des tâches à faire, à effectuer. Là, aujourd'hui, le plus gros des entraîneurs, c'est la pathologie. Parce que c'est lui qui va réguler le fait quand je me lève le matin de dire bon, aujourd'hui tu vas pouvoir t'entraîner ou non. L'après-midi, c'est pareil. Je suis un petit peu comme un Kinder maintenant. Et c'est la surprise le matin quand on se lève. Donc c'est vrai que c'est difficile de pouvoir allier le sport de haut niveau avec le handicap, en tous les cas avec ma pathologie personnelle. Parce que je suis assujet à tout ça, quoi. Il y a des moments je dis ah putain, je me sens super bien, je prends la route et puis je fais 10 km, je suis obligé de faire demi-tour. Donc c'est vrai que pour les entraînements quand on a des échéances, etc., c'est pas toujours évident à gérer. Mais par contre, même si le corps lâche, le mental est là, donc on fait avec.
Alors, j'imagine que vous êtes régulièrement suivi par des médecins ?
Très, un peu trop régulièrement encore à mon goût. Mais
j'avais cru comprendre.
J'en ai pas le choix.
Alors justement, quelle est leur réaction ? Est-ce qu'ils vous ont déconseillé, par exemple, la pratique du sport ou orienté peut-être vers d'autres sports plus, j'allais dire, appropriés, compatibles avec votre santé et votre handicap ?
Alors, en fait, ma pathologie est très complexe. Ils ont mis 9 mois pour comprendre ce que j'avais. Au sortir des opérations, 2 jours après, me retrouver collé sur les murs en train d'essayer de marcher et de tomber en plein milieu des couloirs. Donc, en règle générale, ils voulaient plutôt que j'aille m'allonger que de me bouger. Mais après, ils me l'ont pas interdit. Ils me l'ont interdit verbalement, mais ils l'ont pas écrit. Donc, moi, comme je prends tout au pied de la lettre.
Tant que c'est pas écrit. Faites comme si vous ne l'avez pas entendu, j'imagine.
Voilà, hein, les écrits restent, les paroles s'envolent. Donc, j'ai un peu oublié des choses qui font que voilà. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vais au centre antidouleur, la première chose qu'ils me demandent, c'est pas comment vont mes jambes, c'est alors, t'as fait quoi en compète ? Donc, c'est que, on va dire que ça va.
Et est-ce que du coup, vous auriez imaginé votre vie sans le sport, malgré les douleurs au quotidien qui sont, vous le dites vous-même, hein, vous l'avez dit normalement, dans la Voix du Nord, intenses. Qu'est-ce qui vous aide à surmonter ces douleurs ?
Ben de penser à autre chose, de libérer la tête. Et je pense que ça vaut pour tout type de handicap. Il y a des exemples qui sont flagrants. Alors malheureusement, c'est pas encore assez médiatisé, mais quand on regarde la télé, des compétitions d'e-sport, on voit des sportifs qui marchent avec les bras balbalants ou sur une jambe, etc. Et quand on les voit sur l'acte même de compétition, sur la course, etc., on voit que le corps se transforme. Parce que je pense qu'à un moment, le cerveau oublie. Le cerveau est concentré sur autre chose et on a besoin de ça. On a besoin de ça pour essayer de limiter la douleur. Comme je disais, effectivement, moi, les douleurs, elles sont à H24, avec des pics de douleur qui font que je me retrouve allongé sans bouger. Mais effectivement, quand on arrive à dépasser tout ça, c'est une belle leçon pour soi-même déjà, de se dire que ben voilà, on est encore capable de réaliser des choses, de se prouver que la vie elle est pas faite que de douleurs et que de galères. Donc je pense que c'est important. Alors à la différence des valides, quand ils soulèvent leur médaille, c'est beaucoup d'entraînement, c'est etc. Mais nous c'est aussi, on rajoute la souffrance à tout ça. Donc c'est que du bonheur.
Alors je reviens sur le volley assis ou paravolley. Vous faites partie de l'équipe de France de volley assis. Depuis quand pratiquez-vous cette discipline ? À peu près.
Depuis le mois de juin.
Et alors parlez-nous du tournoi de dimanche dernier qui vous opposait à la Slovénie, la Géorgie et la République tchèque. Comment ça s'est passé ?
Alors a priori positivement, parce que au ressort de tout ce que les gens nous ont gratifié, il y a énormément de choses positives, en sachant que donc le groupe France a été créé il y a environ 2 ans, que nous on n'a pas toutes les possibilités que les autres équipes ont, c'est-à-dire que depuis que j'ai intégré le groupe, on s'est vu 7 jours. A priori, sur l'année, se sont vus 10 jours. Sachant que les autres nations vivent quasiment ensemble. Les Géorgiens, c'est des militaires, donc ils sont constamment ensemble. Ils font les Invictus Games, c'est des champions déjà. Ils sont champions reconnus. La République tchèque, pareil, ils vivent dans le même village. Donc ils peuvent s'entraîner tous les jours. Donc nous on a essayé de défendre les couleurs de la France du mieux qu'on pouvait avec nos forces en puissance. Et je pense qu'on n'a pas démérité, malheureusement voilà, quand on est sportif, on n'aime pas perdre, hein. C'est oui. Ça vaut pour tous les types de handicap, valide ou pas valide. Donc mais a priori, il y a énormément de choses positives, comme le dirait l'entraîneur de l'équipe de France, Stéphane Girola.
Très bien. Et alors, une donnée que vous m'avez expliquée hors antenne, c'est que ces équipes intégraient par contre des sportifs valides.
Oui. Donc en fait, sur ce tournoi du Subzone à Tourcoing ce week-end, en fait, dans le règlement, ils avaient la possibilité d'intégrer deux athlètes valides par équipe au cas où où l'effectif n'était pas au rendez-vous. Bon, ils avaient l'effectif, mais ils avaient quand même leurs deux valides. Nous, on a joué le jeu, on est resté qu'entre nous handicapés. et voilà. Mais je pense que de toute manière, valide ou pas valide, on a fait ce qu'on pouvait. Après, les excuses, on peut en chercher partout. Moi, je vois juste le résultat, je vois ce qu'on a été capable de mettre en place et ce qu'il nous reste encore à fournir comme travail pour être au niveau international sur les plus hautes marches possibles.
On sent le compétiteur hein, dans vos paroles. Hein. Voilà, l'envie de gagner, elle est là, elle est bien présente. Alors on va, merci Nicolas hein, pour ce témoignage. Autre exemple de pratique inclusive, le témoignage de Philippe, cycliste non-voyant, et de son guide Pascal, recueilli lors de la journée handivalide de l'IUT de Lens. C'était au mois de mai dernier avec l'association Ouvrir les yeux.
Pascal est un de mes guides. J'en ai plusieurs de guides, hein, d'accord, en tandem. Parce qu'à la base, moi, je suis triathlète. Bon, j'ai plusieurs guides pour le vélo, la course à pied et la natation. Mais bon, avec Pascal, ça va faire 7, 8, 4, 5 ans, on va dire. Voilà, qu'on roule ensemble. Et puis bon, au début, c'est comme on tâtonne, hein. Mais après, voilà, c'est une question d'habitude. Et moi, je lui fais confiance, c'est pas à 100%, c'est à 200%. Nous, on a quasiment plus de difficultés, hein, dès qu'il y a une bosse, il me dit, il y a une bosse un peu plus fort. Et puis on se parle, voilà, c'est tout. C'est une question d'habitude et de confiance, voilà, réciproque, premièrement aussi. Mais surtout, moi, je fais confiance.
Faut toujours se parler, hein, voilà, c'est ça. Anticiper sur les obstacles, voilà. C'est ça qui est plus dangereux pour nous parce qu'on a une inertie sur le vélo, voilà. On anticipe avant. Mais bon, à part ça, il n'y a pas de problème particulier. C'est un vélo comme un autre. Hein.
Comme un autre, voilà, c'est tout. Voilà. Ça se pilote comme. J'ai l'impression que ça se pilote comme un vélo classique. Voilà. À part qui est un peu plus long. Ouais.
Bon, on a fait des sorties à 200 bornes. Hein. Voilà, il n'y a aucun souci. Hein.
Et alors, vos sensations?
Mes sensations, déjà le plaisir de sortir sur l'extérieur. Parce que bon, quand je peux pas, j'ai bien chez moi un tapis de course et un entraîneur. Mais bon, le principal, c'est de sortir à l'extérieur, puis de revivre, puis de voir du monde. Parce que quand on est chez soi, qu'on est malvoyant et qu'on peut pas bouger, c'est pas. Moi, c'était déjà pas mon but. Et là, les sensations, c'est de retrouver des gens, retrouver l'extérieur et puis de m'éclater, je veux dire. Voilà, c'est surtout ça, je veux dire. Voilà.
C'est quoi votre meilleur souvenir en termes de sortie là à vélo comme ça?
Oh,
Verquin. 220 bornes. On a fait l'Hilard de l'eau l'année dernière. Et puis, en moyenne, tous les semaines, minimum, c'est 100, 120 km. Voilà. Ça, c'est en une seule sortie. Et parfois, on sort deux fois ou lui, il sort même trois fois dans la semaine. Je veux dire, voilà, c'est minimum, c'est des sorties. Bon, là, le temps n'était pas trop. n'était pas top. Mais sans quoi, là, on avait recommencé déjà des sorties de 100 bornes, déjà, là.
Et donc, à la base, vous m'avez dit, vous êtes triathlète.
Ouais.
Et donc, vous faites de la compétition, du coup? Comment ça se passe?
Ouais, j'ai arrêté parce que, vu mon âge, j'ai ralenti. Mais sans quoi, depuis 2005, je suis au club de Liévin. Triathlon club de Liévin je cours avec des personnes valides, je veux dire. Après, moi spécifiquement, c'est par rapport à mon handicap, c'est en paratriathlète. Mais voilà, mes entraînements, tout ça, je fais avec des personnes valides.
Et donc vous allez continuer de vous entraîner, de faire des sorties, etc.
Ouais, plus pour faire de la compétition. Je m'attends le jour où j'aurai envie d'en faire une. Je me ferai plaisir, voilà. Mais sans quoi, non, parce que quand on prépare une compétition, comme ce que j'ai fait les championnats du monde et les championnats d'Europe, c'est 20 heures d'entraînement par semaine. Bon, il faut déjà avoir la personne, le guide, qui soit dispo, hein, parce que voilà. Et puis c'est beaucoup de sacrifices, je veux dire. J'ai vu l'âge avancer, j'ai dit je freine. Et puis avec le guide avec qui je faisais toujours les épreuves, travaille dans le paramédical et il est surbooké et il peut plus trop être dispo, je veux dire, voilà, c'est surtout ça. Alors j'ai freiné un peu, là, on verra cette année ce que je peux faire. Je me mets plus d'objectif, de me faire plaisir surtout.
Le handicap aujourd'hui.
Des réactions par rapport à ce témoignage? qui veut, qui souhaite réagir. Mathias?
Bon, en ce qui me concerne, je mettrai pas ça sur le compte de l'âge, mais je préfère ralentir le rythme de façon à profiter plus aisément de ce que je fais sur le terrain pendant l'athlétisme. Le sprint pendant une année entière, c'est déjà pas mal, mais faire ça pendant 13 ans d'affilée, c'est sûr que ça n'a, on n'obtient plus de ça le même effet. En clair, je fais des tours de terrain pour me calmer, ça me ressource moralement et mentalement.
Ça vous fait du bien, du coup,
pouvoir... 10 tours de terrain en une heure ou deux, ça me dérange pas. Mmh. Tant que je sais que je dois répartir mes efforts sur la durée, c'est plus simple.
Mmh. Nicolas, une réaction?
Tout à l'heure, vous aviez posé une question sur le sport à la maison. Je pense qu'il vous en a donné une des réponses aussi. Voilà, son plaisir, c'était c'est de sortir, c'est de prendre l'air. Et je pense qu'on en est tous là. Donc c'est important... les institutions en prennent compte aussi et nous intègrent enfin dans la vie sociale des Français.
Alors, justement, quid de l'inclusion dans les clubs traditionnels? Est-ce que, d'après vous, tous les sports devraient être accessibles? Est-ce qu'ils le sont tous déjà? C'est une question qu'on ne s'est pas posée d'ailleurs, Julien.
C'est vrai. Ah, ça réfléchit autour de la table. Est-ce que déjà tous les sports peuvent être accessibles? Parce que, d'un point de vue technique. Oui, Mme Ponchel.
Oui, au niveau de notre fédération, enfin, au niveau national, il y a 86 disciplines répertoriées, donc qui couvrent quand même un panel assez important large de disciplines. Mmh. Départementalement, une vingtaine. Hein, parce que, bon, physiquement, nos sportifs peuvent pratiquer. La seule différence, c'est que les règles sont parfois adaptées en fonction des personnes qui pratiquent.
Non, tous les sports ne sont pas adaptés. Je suis en fauteuil, j'ai commencé ma longue carrière de sportif par le judo. Et j'aurais bien aimé retourner sur les tatamis, c'est impossible.
Par contre, le rugby fauteuil, ça c'est possible.
C'est possible.
Et c'est très physique également. Hein.
C'est, alors, pour en avoir fait en tant que valide... pour faire plaisir à un petit garçon, on avait fait avec l'équipe de rugby... contre son équipe Andy, et on avait pris énormément de plaisir, mais j'avoue que j'ai besoin de faire le deuil du rugby, donc je ne retournerai pas sur ces disciplines-là.
Mathias, Emmanuel, pardon, Emmanuel, pour vous, la question du choix du sport et de son accessibilité...
Ça a été compliqué, c'est-à-dire que on doit faire avec le handicap de Mathéo et l'autisme, c'est quelque chose qui diffère de chaque enfant. Donc on a dû réfléchir à quoi lui donner, sur quoi on voulait partir, quelles étaient les problématiques qu'on voulait travailler. Donc clairement Mathéo on l'aurait pas mis au foot par exemple, enfin lui il va avoir le ballon, il va partir avec et il va pas jouer en collectif. Par contre sur le Kempo, entre la psychomotricité, le cadre qui est donné, le fait de se défouler, Mathéo a des problèmes des fois de crise de frustration qui emmène de la violence, donc ça lui permet aussi de maîtriser tout ça. Nous on est parti là-dessus et on n'a pas à se... Enfin, on est plutôt content de notre choix à la fin.
Une expérience récente d'ailleurs, hein, parce que c'est vraiment, ça date de il y a quelques semaines je crois, c'était ça. Hein.
Oui, ça fait un mois en fait, hein, là, donc c'est tout neuf, mais ça se passe très bien et c'est quelque chose qui réclame maintenant. C'est intégré dans son esprit, c'est intégré à son emploi du temps. Donc, c'est pas quelque chose qu'on pourrait lui retirer maintenant. Donc, on est plutôt content de notre choix, en fin de compte.
Annie?
Oui, ce que je voulais rajouter, c'est qu'en plus des disciplines énormes, enfin, le nombre de disciplines importantes pratiquées par la fédération, on a une discipline spécifique à la fédération qui sont les activités motrices. C'est une discipline propre et qui s'adresse aux personnes les plus sévèrement handicapés, disons, et ça leur permet simplement de conserver ou de développer une motricité fonctionnelle dans les préventions de la sédentarité, des choses comme ça.
Très Très bien, merci pour ces précisions. Alors justement, Patrick Gubinski, le président du comité départemental du handisport du Pas-de-Calais, évoquait il y a quelques semaines sur notre antenne la pratique de la boccia. On l'écoute tout de suite sur Radio Plus.
Le Pas-de-Calais est une terre de boccia. On en est très fiers. Le département du Pas-de-Calais est reconnu département pilote pour notamment développer cette discipline très particulière, comme je le disais. Et s'adresse à un public en compétition, on est bien d'accord, dans le cadre de la compétition, s'adresse exclusivement à des personnes en situation de handicap très important. Même si on n'a pas l'utilisation de ses mains, ni de ses pieds, ni de quoi que ce soit, il y a moyen de jouer à la boccia. C'est une forme de pétanque adaptée qui se joue en salle. Donc c'est pourquoi en salle, et toujours dans une salle entre 20 et 22 degrés, parce que nous sommes quand même en face d'un public fragile,
bien sûr.
On est d'accord. Et donc, quand on a déjà très peu de muscles suivant les pathologies, par exemple les personnes atteintes de myopathie, voilà. Donc, ils peuvent pratiquer la boccia. Il faut qu'ils soient dans des conditions idéales pour pouvoir la pratiquer. Donc, la boccia, ça se joue sur un terrain de 12,50 m/6. Ça peut se jouer à 3 contre 3, à 2 contre 2 ou 1 contre 1. Après, il y a la boccia paralympique. Donc il y a quatre catégories. Nord-Pas-de-Calais actuellement, quand je parle de la boccia paralympique, pourquoi? Tout simplement parce que la boccia paralympique est reconnue comme sport paralympique, et donc on a même une équipe de France qui risque d'aller, je dirais même pas qui risque, je ne prends pas de risque en le disant, qui vont aller à Tokyo en 2020 lors des Jeux prochains paralympiques. Et donc on a, ça sera la première fois qu'une équipe de France va aller aux Jeux paralympiques dans le cadre notamment de la boccia. Et pour information, les joueurs de l'équipe de France font en majorité partie du Nord-Pas-de-Calais. Ça, c'est une chose importante. Donc la boccia, c'est aussi le permettre à toutes les personnes qui sont en situation de handicap très importante de pratiquer une discipline relativement simple dans la pratique, vous voyez. On peut le faire en compétition, non pas seulement paralympique, en compétition départementale, régionale, avec des règlements beaucoup plus souples, parce que c'est très 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 technique comme discipline. Après, il y a aussi, comme je le disais à Monsieur Roussel tout à l'heure, nous l'avons développé, et c'est pour ça qu'on est pilote dans le Pas-de-Calais aussi, pour les EHPAD, pour toutes les personnes en situation de handicap qui vivent dans les EHPAD. Donc nos seniors, eh ben, on leur a proposé de découvrir la boccia, et ça, cela fait maintenant à peu près 4 à 5 ans. Ça a eu un essor fantastique, je le dis. On a même créé au niveau du Pas-de-Calais, et c'est le seul département pour l'instant en France, on l'a même annoncé aux Journées Nationales Handisport, eh bien le Pas-de-Calais propose un calendrier départemental pour les EHPAD qui sont dans le Pas-de-Calais. Des dizaines d'EHPAD sont intéressés, comprenez simplement. Donc, dans toutes ces personnes, nos seniors, bah, au lieu de jouer parfois aux dames ou autre, tout cela, bah, voilà, on leur propose une activité sportive douce. On le propose par équipe de trois, donc il y a tout ce contexte, le côté social, sortir de l'isolement, rencontrer d'autres personnes, donc il n'y a pas seulement le sport, donc, ou plutôt à travers le sport et cette discipline, eh bien, on va permettre à nos anciens de retrouver quelque part une joie de vivre, de beaucoup d'épanouissement et d'évolution qui sont incroyables. Quand on voit sur le terrain, je peux vous dire, comme je le disais encore tout à l'heure, je me fais plaisir à en pleurer quand on remet parfois des médailles, tout simplement. Ou des coupes, parce qu'on n'y va pas pour faire des championnats pour devenir champion, on y va pour se retrouver, pour faire un petit challenge, pour se faire plaisir. Mais ils se prennent tellement au jeu, nos seniors, qui sont tellement demandeurs, qu'on va devoir créer d'ici un ou deux ans, on en reparlera j'espère, et ben un championnat véritablement départemental, régional, voire national, parce qu'on sait en pourparler au niveau national, de faire un championnat pour les seniors de boccia.
Le handicap aujourd'hui.
Alors, la boccia, est-ce que c'est justement un bon exemple de pratique sportive lorsque l'on a la motricité qui est défaillante? Une réaction autour de la table, peut-être? Qui souhaite...
Disons que c'est plus une discipline handisport, mais malgré tout, avec nos sportifs qui sont en masse, en foyer d'accueil maîtrisé, c'est une pratique courante. De même que le sport adapté commence à rentrer également dans les EHPAD pour les personnes qui ont des problèmes de déficience.
Est-ce que la pétanque ou ses dérivés se pratiquent aussi dans vos structures, Christelle Langham?
Oui, donc on a la pétanque. Après, on a différents sports aussi qui sont adaptés selon le handicap.
Très bien.
Sachant que, oui, si je me permets d'intervenir, la pétanque est quand même pratiquée à haut niveau chez
vous, oui.
Puisqu'il participe au championnat de France régulièrement. Donc le sport adapté, bon, il y a du haut niveau, il y a de la performance, mais aussi il y a des pratiques adaptées à tous les niveaux des personnes. Et l'essentiel, c'est le plaisir que prennent nos sportifs.
Et des champions et des championnes, on en retrouve aussi au sein de votre comité, c'est ce que vous nous expliquiez aussi tout à l'heure.
Oui, absolument. Et bon, Marion Candelier, pour ne pas la citer, qui a été deux fois championne du monde l'an passé en 2017, en 2000, j'ai noté, parce que en 2000 cross court et 5000 cross long, et qui cette année est championne du monde en 3000 mètres indoor. Et je pense que bien peu connaissent son nom, ne serait-ce qu'à l'échelle du département. Et c'est le problème de la médiatisation de notre discipline. Parce que notre défaut à nous, bah, c'est que le handicap n'est pas forcément visible. Et que médiatiquement, c'est quelque chose de très difficile à faire passer.
Ça commence à s'améliorer. En tout cas, on voit les Jeux paralympiques qui sont diffusés, oui, certes, tous les 4 ans à la télévision. Mais c'est pas suffisant, je suppose. Mais est-ce que c'est déjà un bon début, en tout cas?
Bah, ça commence, mais vu le décalage horaire qu'il y a eu la dernière fois, bon, c'était pas très favorable non plus pour nos sportifs, je pense. C'est un début. Bon, on espère que ça va évoluer, mais on a un manque de médiatisation flagrant.
Nicolas?
Bah, je pense effectivement, c'est important. La médiatisation, pourquoi? Parce que quand on veut faire du sport de compétition, on a besoin de moyens. Simplement. On parle de structure, etc., mais un sportif de haut niveau a besoin de moyens, a besoin de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions, donc avec du bon matériel, d'avoir du temps pour le faire. Donc il y en a qui travaillent, donc ils sont obligés de poser des jours de congé pour partir en compétition, etc.
Les sponsors sont là?
Alors, je le suppose pas assez, je peux pas parler au nom de tout le monde.
Bien sûr.
Moi, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai la chance à travers la ville d'Hénin-Beaumont, qui a fait énormément pour moi, d'avoir trouvé plusieurs sponsors, d'avoir construit une aire de lancer pour moi, notamment avec iBox qui me prête un véhicule, qui fait qu'aujourd'hui je suis là, qui fait que je peux me déplacer en compétition, parce que aujourd'hui les institutions me refusent l'achat d'un véhicule parce que ça coûte cher. À travers ça, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte aussi, parce que ben, comme je vous le disais, quand on pose des congés, quelqu'un qui travaille classiquement que 5 semaines par an, donc quand il prend des congés sans solde pour aller en compétition, etc., faut que l'argent puisse rentrer simplement pour pouvoir manger, pour pouvoir nourrir sa famille, payer son loyer, l'électricité, comme tout à chacun. Et donc il y a des sponsors qui jouent le jeu. Comme je vous le disais, moi j'ai eu la chance avec iBox, avec Joma, mon équipementier sportif qui me donne tous les vêtements dont j'ai besoin. Donc, après j'ai la chance aussi que des amis ont créé une association pour moi, les Lancers de Nico, pour pouvoir récolter des fonds, donc justement pour payer tout ça. Qui fait que j'arrive moi personnellement à m'en sortir, mais je pense que c'est vraiment pas le cas de tout le monde. Et quand j'en discute avec les autres athlètes, quand je leur dis, bah moi ma commune elle m'a construit une aire de lancer pour pas que je me tape 40 km pour aller à l'entraînement, ils me regardent, je vois la jalousie au fond de leurs yeux, quoi. Et effectivement, le problème c'est que pour attirer les sponsors, faut pouvoir le rendre aux sponsors. Donc il faut être médiatisé. Et tant qu'on sera pas médiatisé, on sera pas connu. Et tant qu'on sera pas connu, les sponsors ne viendront pas. C'est comme partout. Pourquoi il y a autant d'argent dans le football? Parce que c'est le sport le plus médiatisé au monde. Alors, quand on prend tous les sports valides qui n'ont déjà pas de médiatisation, alors imaginez avec le sport handicap. C'est très dur. Mais il y a un moment, je pense que, et je l'espère, on arrivera un jour à se donner les moyens des ambitions. Là, on veut que les JO soient en 2024 en France, et on baisse le budget du sport. Donc, il y a un moment, à force de se mordre la queue, il n'y en restera plus.
Et surtout aussi, alors une question que je me suis toujours posée depuis qu'on parle de handicap sur Radio Plus, et à chaque fois, la réponse est c'est pas possible. Mais pourquoi ne pas faire les Jeux Olympiques et Paralympiques en même temps? Est-ce que ça ne donnerait pas plus de visibilité?
Alors je vais me permettre de répondre. Alors c'est pas possible pour la simple et bonne raison que la première des choses c'est les sponsors. La première des choses, c'est les sponsors. Il y a des sponsors qui ne voudront pas être...
Qui freinent des deux mains et des deux pieds, quoi.
Voilà, qui ne voudront pas être associés au handicap. La seconde, c'est les structures.
Capacités d'accueil.
Les capacités d'accueil. Les structures qui sont légèrement modifiées par rapport quand il y a un JO valide. Et c'est pour ça qu'il y a toujours 15 jours de délai après les compétitions valides et non valides. Et puis, je pense que... Moi aussi, hein, je me suis dit, hein, à force de faire des compétitions, de voir, et je me suis dit qu'en fait, ça nous servirait pas. Il y a les derniers mois de février, je suis parti faire. On m'a sollicité pour aller faire une compétition internationale à Clermont-Ferrand avec des valides. Donc c'était un pseudo triathlon, donc c'était en salle. Donc il y avait Kevin Meyer qui était là, il y avait Romain Lavillenie, et puis donc ils ont fait un triathlon. Avec des athlètes handi et des lancers de poids avec moi et d'autres participants. Alors je vais pas dire on est passé inaperçu. Je pense que pour être honnête, alors même si ça va chagriner certains, j'y retournerai jamais. On a eu mais vraiment l'impression d'être, c'est même plus la dernière roue du carrosse, c'est pour être poli. Et quand on essaye de montrer qu'on est capable, et pour faire changer le regard des gens, et qu'on est considéré comme ça dans cette compétition, je peux vous garantir que ça fait mal.
Donc vous êtes ressorti de cette compétition très amer.
En colère. En colère, simplement en colère.
Ce qui peut aisément se comprendre. On va aborder, puisque l'heure tourne, hein, il est déjà... 15h42 sur notre antenne, il va nous rester une petite dizaine de minutes pour pouvoir parler du dernier aspect de cette émission dans le handicap aujourd'hui. Donc on est consacré, je vous rappelle, aujourd'hui au sport adapté et au handisport avec le soutien de la Fondation de France. On s'intéresse à présent au lien entre le sport et les actions caritatives, la capacité des sportifs à se mobiliser pour ces causes et tenter d'obtenir des fonds ou de mettre en lumière certains handicaps. Julien.
Oui, alors Nicolas, vous avez participé dimanche 23 septembre, c'était dimanche dernier, au défi de l'association Ensemble pour Noémie, qu'on avait reçu hein, d'ailleurs cette association lors de notre précédente émission Le Handicap aujourd'hui. C'était un défi consistant pour vous et votre binôme qui est athlète en situation de handicap également, Bruno Zelec, à parcourir une boucle de 50 km. Comment la journée s'est-elle passée ?
Donc effectivement, il y a quelques temps, j'ai rencontré Noémie et j'étais touché par cette petite fille de 14 ans qui est en situation de handicap lourd. Et donc avec un autre athlète, Bruno Zelec, on avait décidé de faire quelque chose à deux. On va dire un petit défi de fou pour montrer qu'on était capable, malgré le handicap, de faire quelque chose. Et puis on a voulu allier donc les remerciements à la mairie qui nous aide et en même temps pouvoir le rendre à un enfant. Je pense qu'on avait bouclé la boucle. Donc c'était important pour nous de réaliser ce défi. Donc c'était une boucle d'un kilomètre où on invitait tous les gens à venir participer à un petit bout de chemin en marchant, en courant, comme ils le souhaitaient. Et pour ce faire, ils devaient acquérir le dossard en faisant un don à l'association pour Noémie.
D'accord. Je crois qu'il y a eu, si j'ai bien lu dans la Voix du Nord, environ 150 à 200 personnes hein, lors de cette journée qui sont présentées.
Oui, oui, oui. Alors, beaucoup diront, hein, c'est pas mal, mais on attendait beaucoup plus. Malheureusement, le temps n'était pas au rendez-vous. Donc, nous, on a pris le double défi avec Bruno et puis sans oublier son guide, parce que sans son guide, Bruno, qui est malvoyant, n'aurait pas pu participer. Parce qu'au départ, on devait faire des tracés qui n'ont pas tenu à cause de la pluie. Donc, un grand merci aussi à Francis Villette qui a réussi à amener Bruno jusqu'au bout du parcours. Un parcours qui, pour nous, a duré presque 8 heures.
Donc, un sacré exploit aussi sur la durée. Justement, quelles ont été les réactions des visiteurs, du public que vous avez croisés ? Est-ce qu'il y a eu des échanges aussi, j'imagine, autour de votre handicap, de votre parcours de sportif ?
Bien sûr, parce que ça se voulait être un moment humain de partage, et c'est pour ça qu'on a invité toutes les personnes possibles et inimaginables. Il y a même des champions qui sont venus, qu'on connaissait, qu'on côtoyait. Et je pense que c'était important. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je comprends pas comment, en souffrant comme ça pendant 8 heures, en prenant la pluie dans la figure, t'arrives à avoir le sourire. Et je lui ai dit, mais si moi je l'ai pas, qui va l'avoir? Parce que j'étais en train de prendre mon pied, parce que je faisais quelque chose qui avait jamais été réalisé. Donc moi je l'ai fait en fauteuil classique, j'ai pas fait en fauteuil de course. Et c'était que du bonheur. C'était que du bonheur. Et en plus, à travers ça, de montrer aux valides que même nous, on pouvait se mobiliser pour quelqu'un qui était encore plus handicapé que nous. Voilà, je pense qu'on avait fait vraiment cette boucle, cette chaîne humaine. Et je remercie encore tous les participants qui sont venus se confronter à la pluie durant cette journée. Et je pense que c'est un moment qui a marqué énormément de monde. Quand je vois le retour des messages sur Facebook, etc., c'est un moment qui était juste magique.
Emmanuel Joly, votre association nouvellement créée, les Gardiens de la Licorne, qui vient donc en aide à Elena et à Mathéo, on l'a rappelé en début d'émission, prévoit dans son objet, tel que publié au Journal Officiel, justement, la réalisation de manifestations sportives pour lever des fonds au profit de l'association. Le sport est-il justement un vecteur de mise en lumière pour le handicap et pour soulever des fonds?
Bah oui, pour le handicap évidemment, on le voit. Hein, c'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Hein, c'est un vecteur de relations humaines. Donc ça amène les gens à venir, à découvrir, à donner aussi, à donner un peu de temps, puis ne serait-ce que quelques sourires. Enfin, c'est une vie particulière qu'on mène. Donc après pour ce qui est d'organiser des actions sportives, on y réfléchit, on est en train de voir un petit peu ce qu'on pourrait proposer. L'association est nouvellement créée, donc on cherche aussi des financements. Donc si jamais, d'ailleurs, j'en profite, hein, si jamais quelqu'un voudrait nous faire un don, qu'il n'hésite pas à écrire... aux 3 rue des Chardonnerets, 6260 Bully, et donc à l'ordre des Gardiens de la Licorne, ça nous aidera. Donc on va récolter de l'argent pour Elena, essentiellement ma fille, et Mathéo, mais c'est tout. On va d'abord financer pour elle une poussette adaptée et un véhicule, et tout l'argent qu'on aura par la suite et dans les prochaines années, ce sera pour d'autres enfants, d'autres familles qui connaissent le handicap, parce que pour le vivre au quotidien, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Ce qu'on disait tout à l'heure, on est extrêmement isolé. Au niveau, on est, nous, par exemple, avec nos deux enfants au handicap totalement différent, on est à 4 ou 5 rendez-vous médicaux par jour, c'est juste énorme, on n'a plus de vie sociale. On a de la chance d'avoir quelques amis qui sont là, qui nous ont aidés justement dans la création de l'association, mais en termes de financement, rien que pour Elena, en termes de matériel qui n'est pas pris en charge par la sécurité sociale, on est sur du 20 000, 30 000 euros. Donc, on voit bien que d'autres familles ont ces besoins-là, donc nous on a commencé à faire une cagnotte litchi pour notre fille. À la base, c'est parti d'une cagnotte litchi qui est loin d'avoir atteint sa cible, mais qui nous a donné l'idée de faire cette association, parce qu'il y a des entreprises qui voudraient aussi donner. Donc et on s'est dit, on va essayer de faire des activités culturelles, sportives, et avec un peu de chance, faire connaître aussi le handicap, que les gens portent un regard différent sur le handicap, qui est plus d'inclusion. Voilà.
Alors justement, ce regard différent sur le handicap, c'est ce que Nicolas Cunier a tenté de faire cet été. Il a mené un tour de France en handibike du 30 juillet au 19 août dernier. Il est étudiant à la base en STAPS à Liévin. Et donc le handibike, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, eh bien c'est un vélo dont la particularité est de et qu'il se pédale avec les bras, tout simplement. Il était venu en parler au micro de Radio Plus. Et puis, l'un des faits qui l'a le plus marqué, ce sont les rencontres et les réactions avec les gens qu'il a pu croiser.
C'est bien pour expliquer quand même que c'est une activité qui est beaucoup pratiquée par les personnes handicapées, qu'elle est bien évidemment pas réservée qu'à eux. On est là aussi pour montrer que le sport y est pour tout le monde. L'accessibilité au sport est pour tous. Et puis après c'était aussi pour montrer un peu le sens du courage que pouvait avoir une personne en handicap, parce que faut le faire pour grimper. Quand j'ai su par des gens à La Rochelle que les handbikers montaient le Tourmalet à 3 km/h, mais moi là sur le coup j'étais bluffé quoi.
Ouais.
Donc ça montre une certaine forme de courage envers les personnes de situation de handicap, parce que moi qui est cycliste, qui a les conditions, quand je l'ai vécu, je voudrais bien avoir leur forme qu'ils ont aussi quand même au niveau des bras.
Alors dans votre parcours, certaines étapes, vous avez été accompagné certaines fois par les fins d'étape, mais éventuellement par des comités.
Alors début d'étape ou quelques fins d'étape par éventuellement quelques comités, oui. Et aussi par des amis et professeurs que j'ai rencontrés sur la route. J'ai mes professeurs d'école là, qui sont venus à Mont-de-Marsan par exemple. Et puis qu'ils ont fait 15-20 km où j'étais en bike, ils ont utilisé mon vélo de route. Enfin voilà, on a partagé des bons moments comme ça. Et puis ils se rendaient compte aussi de la difficulté, parce qu'ils me voyaient dans les petites montées à la ramasse là, alors qu'ils étaient tranquilles sur leur vélo de route. Donc ils comprenaient quand même que c'était un vélo assez spécial.
Des réactions par rapport à ce qu'a fait Nicolas Cunier, qui souhaite réagir?
Mais je pense que voilà, c'était un beau projet sur la médiatisation du handicap. Effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme tout le monde le ressent autour de la table, le handicap fait peur. Donc les gens ont tendance plutôt à reculer, que ça soit handicap moteur ou sensoriel ou autre. Il y a un jour, il va falloir changer ce regard. Il va falloir changer ce regard. Donc c'est important de la communication. On y revient toujours. C'est important d'échanger, de discuter. Et ce qu'il a fait, bravo à lui.
D'autres réactions?
Non, moi je rejoins tout à fait. La médiatisation, c'est le nerf de la guerre.
Indispensable.
Indispensable. Oui. Et pour parler de sponsors, pour parler du comité plus particulièrement, on ne vit que des recettes publiques pratiquement. Donc on est à la recherche de sponsors, donc si des gens nous écoutent et veulent bien participer.
Voilà, donc avis aux entreprises qui souhaiteraient justement aider les clubs qui justement proposent du sport adapté ou du handisport pour justement leur permettre d'avoir des moyens, sachant qu'effectivement, comme on l'a souligné lors de cette émission, les moyens sont à la baisse du côté du ministère. Voilà, même si la nouvelle ministre a semble-t-il un petit peu bataillé au tout début de son mandat. Voilà, affaire à suivre en tous les cas. On ne sait pas comment ça va évoluer, mais on suivra ça d'assez près. Eh bien, il est temps pour nous de nous quitter. Je vous remercie toutes et tous d'avoir participé à cette émission. Annie Ponchel, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes présidente du comité départemental de sport adapté du Pas-de-Calais. Christelle Langham, professionnelle donc en foyer de vie, et Mathias Croquelois, donc résident d'un foyer également sportif, athlète dans un club donc tout à fait classique. Nicolas Murphy, donc athlète de haut niveau. Également Emmanuel Joly, président d'honneur de l'association Les Gardiens de la Licorne, et également donc papa d'Elena et de Mathéo qui sont en situation de handicap. On remercie également Cathy qui a témoigné tout à l'heure par téléphone. Merci également Julien pour la participation à l'émission, ainsi que Christophe, le directeur d'antenne de Radio Plus. Je vous souhaite une très bonne fin de journée à l'écoute de vos programmes.
C'était Le Handicap Aujourd'hui, une émission produite et réalisée par Radio Plus avec le soutien de la Fondation de France.